Et on commence avec une étude parue dans la revue Science. Des chercheurs ont modifié des cerveaux de singes à l'aide d'un gène humain pour les rendre plus gros.
Une équipe germano-japonaise a introduit dans des embryons de Ouistiti un gène spécifique aux êtres humains, le gène ARHGAP11B. On sait que lors du développement du fœtus, ce gène booste la production de neurones corticaux. Chez ces embryons de singes transgéniques, cette équipe a donc observé une expansion du cortex, avec des néocortex plus grands et plus repliés. Le néocortex, c'est cette zone qui est plus développée chez les humains que chez les primates et qui est responsable des capacités cognitives complexes, telles que le langage ou le raisonnement. Alors, ce n'est pas un épisode de la planète des singes, selon...
Ça y ressemble pourtant.
Mais voilà, les normes éthiques, selon ces normes, les Ouistiti n'ont pas été amenés à terme, mais les chercheurs viennent de mettre la main sur une pièce importante du puzzle de l'évolution humaine. Evelyne Heyer est professeure d'anthropologie génétique au Musée national d'histoire naturelle à Paris.
Ça répond à une des questions fondamentales. Qu'est-ce qui fait qu'on est ce qu'on est en tant qu'être humain? On sait qu'on a eu, au cours de l'évolution, notre cerveau a vraiment évolué avec un néocortex plus complexe, plus gros. Et là, avec l'expérience qui démontre, on commence à comprendre comment certains gènes auraient pu jouer un rôle dans cette évolution. Ces Ouistiti ainsi modifiés, ils ont pu regarder comment le néocortex de ces Ouistiti s'est développé. Et on voit dans le développement de ces néocortex des choses qui sont un peu, entre guillemets, particulières à ce qu'on trouve dans la lignée humaine, à savoir un néocortex plus grand et aussi plus replié. C'est spécifique à l'être humain. Et en fait, ce qui est aussi de très intéressant, c'est que ce gène, c'est ce qu'on appelle une duplication. C'est-à-dire qu'on trouve dans à peu près tout le règne animal le même gène, mais que chez l'homme, dans la lignée humaine, ce qui est spécifique, c'est que ce gène s'est copié. Et après, cette copiée, il a incorporé une nouvelle mutation. Et donc, on voit bien comment le hasard a joué pour faire apparaître des nouveaux gènes qui, entre guillemets, ont permis des nouvelles fonctions. Ils estiment qu'en fait, la duplication est apparue il y a environ 5 millions d'années. Donc, premier événement, je dirais, de hasard, il y a une duplication de ce gène. Et deuxième événement, sur cette duplication, il y a une mutation spécifique qui fait changer légèrement la protéine pour laquelle code ce gène. Et cette mutation spécifique et cette duplication, on la retrouve chez tous les êtres humains, mais on la retrouve aussi chez Néandertal et Denisova, nos cousins archaïques.
Voilà, si vous voulez retrouver le lien vers l'étude publiée donc dans Science, eh bien on vous les poste comme tous les jours sur le fil Twitter de l'émission et vous pouvez retrouver ça ensuite sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Le fil Twitter, vous le connaissez par cœur maintenant, c'est @laméthodefc. On passe au bref. Tous les jours, donc, un point sur l'actualité scientifique autour du coronavirus. Selon une étude parue dans Nature Medicine, on développe bien des anticorps après une infection, mais peut-être pas pour longtemps, Natacha.
Ouais, selon cette étude chinoise, les anticorps développés contre le SARS-CoV-2 ne dureraient que de 2 à 3 mois, et en particulier chez les malades qui n'ont développé aucun symptôme. Les chercheurs ont comparé les taux d'IgG et les taux d'anticorps neutralisants de 74 patients malades, dont une moitié d'asymptomatiques. Les résultats montrent que dans les 3 mois qui suivent l'infection, 40% des asymptomatiques sont devenus séronégatifs, c'est-à-dire que leur taux d'anticorps était indétectable dans le sang. Ça ne veut pas dire que l'immunité disparaît, n'oublions pas l'immunité aux lymphocytes T, mais ces travaux mettent en doute toutes les campagnes de tests qui cherchent à mesurer l'immunité collective.
Ce week-end, dans la ville de Verkhoyansk, en Sibérie, la température est montée jusqu'à 38 degrés.
Et c'est un record, il n'a jamais fait aussi chaud en Arctique. Cette ville dans le nord du cercle polaire est surtout connue pour ses records en température négative. En janvier dernier, il y faisait moins 60 degrés. Par ailleurs, le début de la saison de la fonte des glaces au Groenland a, encore une fois, commencé avec 2 semaines d'avance. On peut rappeler que les effets du réchauffement climatique sont amplifiés en Arctique. Depuis le milieu du 19e siècle, les températures moyennes dans la région ont augmenté de 2 degrés, soit 2 fois plus que la moyenne mondiale.
Et enfin, selon une prépublication sur le site Archive, la Voie lactée est sur le point d'effacer une galaxie voisine.
Une prépublication intitulée « Le dernier souffle de la galaxie naine du Sagittaire ». Cette galaxie satellite orbite autour de notre Voie lactée. Les chercheurs de l'université de Cambridge ont étudié sa structure 3D et sa cinématique, le mouvement de ses étoiles. Les simulations montrent que les forces gravitationnelles colossales de la Voie lactée déchirent en lambeaux cette galaxie. Sa densité centrale est trop faible pour résister aux forces de marée. Une galaxie en phase terminale, je cite, qui sera complètement déchirée au cours du prochain demi-milliard d'années.